Deuxième partie sur la famille. Une autre question, très débattue en ce moment, en des termes très mal posés, ce qui, soit dit en passant, permet aux discussions de durer indéfiniment, et le problème dans une confusion croissante, est le problème de l'égalité des sexes, comme on le dit. La véritable égalité est fondée sur la phrase de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image divine, homme et femme. D'ailleurs, saint Paul dit que le corps de l'homme, de la femme n'appartient plus, ne lui appartient plus, mais appartient à l'homme, et que le corps de la femme ne lui appartient plus, mais le corps de l'homme ne lui appartient plus, mais appartient à la femme. Ce qui signifie bien une égalité radicale. Pour prendre une comparaison que certains pourront trouver burlesque, il en est de l'homme et de la femme comme du papier et du crayon. Ils sont différents mais complémentaires. On ne peut écrire sans avoir les deux. Si vous n'avez que du papier sans avoir un crayon, vous allez être conduit à déchirer le petit bout de papier comme vous pourrez. Et puis si vous avez un crayon sans avoir du papier, à écrire dans le creux de votre main. De toute façon, cela n'ira pas très loin. Notons en passant que le papier et le crayon sont de nature différente, s'entretiennent de manière différente, et que s'ils sont complémentaires et égalitaires en ce qui concerne le fait d'écrire, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Ce n'est qu'après la faute que Dieu a dit à la femme, « Le désir te portera vers ton mari et il dominera sur toi », tout comme l'a dit le travail, dont la dignité devint pénible. Mais c'est une conséquence de la faute originelle. C'est là une menace constante, la domination de l'homme sur la femme, qui ne fut illustrée que trop fréquemment, mais non systématiquement. Il n'est que de rappeler le conte pourtant païen de Philémon et Baucis, l'homme et la femme qui sont transformés en un chêne et un tilleul, qui vont durer des siècles et des siècles l'un à côté de l'autre. Si l'importance des rôles respectifs ont varié suivant les époques, on ne peut s'empêcher de constater que la femme tenait au Moyen-Âge un rôle bien supérieur à celui que lui attribuait le code Napoléon. On peut choisir la figure d'Aliénor d'Aquitaine, on peut choisir le tableau de Médicis, le banquier et sa femme, ou l'on peut choisir la farce du Cuvier, où l'homme se trouve le jouet de femmes assez imbuvables. L'Église a toujours mis l'accent sur l'amour et le respect profond que l'homme doit témoigner vis-à-vis de son épouse. Et en réalité, saint Paul et Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, l'homme doit vivre avec son épouse une forme toute spéciale d'amitié personnelle. Le même texte met en garde contre une supériorité abusive des prérogatives masculines, mais ajoute dans Mulieris Dignitatem que la femme ne peut, au nom de la libération de la prétendue domination de l'homme, tendre à s'approprier les caractéristiques masculines au détriment de sa propre originalité féminine. En résumé, on pourrait dire qu'il n'est jamais interdit de se montrer intelligent, mais dans notre époque, cela n'est pas politiquement correct. Quant à son rôle dans la société, il est admis que l'égalité de dignité et de responsabilité entre l'homme et la femme justifie éventuellement l'accession de la femme aux responsabilités publiques. Mais il ne faudrait pas rester dans la mentalité suivant laquelle l'honneur de la femme vient davantage de son travail à l'extérieur que de l'activité familiale. Je cite encore Familiaris Consortio qui continue « Il revient à la société de restructurer d'une manière telle de se restructurer d'une manière telle que les épouses et les mères ne soient pas obligées concrètement à travailler hors du foyer et que, si elles se consacrent totalement à leur famille, celles-ci puissent vivre et se développer de façon convenable. » Un brin de réflexion montre que tous les métiers ne conviennent pas à la nature féminine, ne serait-ce qu'en raison de la puissance physique. Le métier de déménageur de piano risque d'attendre encore longtemps le miracle de la parité. Dans le domaine sportif, il suffit de lire la liste des records masculins et féminins pour voir quelques différences. Personne n'aurait l'idée saugrenue d'imaginer un match de boxe au plus haut niveau entre un homme et une femme, même si elle a choisi le gender masculin. Ni même un match de tennis. D'une manière moins caricaturale, On peut dire que si le rôle d'infirmière semble fait pour une femme, il n'en est pas de même de celui de bourreau ou même de tueur d'abattoir. La femme est faite pour donner la vie et non pour l'ôter, disait un vieux sage. Je ne vois pas sans réticence une femme devenir procureur de la République. Le Salve Regina appelle Notre-Dame notre avocate et non notre accusateur public. Une femme qui condamne quelqu'un dans le fond à quelque chose de monstrueux. Sur le rapport entre hommes et femmes, faut-il rappeler ce que saint Paul a écrit aux Éphésiens dans son chapitre 5 ? Soyez soumis les uns aux autres. On est loin des appels actuels à la révolte systématique. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, soyez-le à votre mari. Mari, aimez vos femmes dans le Christ qui a aimé son Église en se livrant pour elles. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. D'ailleurs, les femmes ont été une aide précieuse pour saint Paul. Dans sa lettre aux Philiciens, on lit « Je prie Élodie, j'invite Saint-Tiché à vivre en bons termes dans le Seigneur. Et toi, fidèle Saint-Zige, je t'en prie, viens à leur aide, car elles ont partagé ma lutte pour l'Évangile, de même que Clément et les autres collaborateurs dont les noms sont inscrits aux lignes de vie, au livre de vie. » Il y avait donc des femmes parmi les collaborateurs de saint Paul et des femmes inscrites au livre de vie. N'en déplaise à ceux qui prétendent que l'Église refusait une âme aux femmes. Ce que dit Dieu d'ailleurs. Le Salve Regina est bien antérieur aux revendications féministes. Ce serait plutôt le cas du siècle dit des Lumières, qu'on ferait mieux d'appeler siècle des Ténèbres, et du Code civil de Napoléon, qui prétendait maintenir sous une tutelle étroite des femmes auxquelles il n'accordait en quelque sorte qu'une âme au rabais. Au demeurant, prétendre comme le fond de quelqu'un qu'il n'y a plus de sexe mais un genre auquel chacun est libre d'adhérer, et d'ailleurs pourquoi n'en a-t-il que deux, est d'un ridicule achevé. Il n'est que de regarder l'anatomie de chacun pour constater que l'homme est tourné vers l'extérieur, vers la transmission en particulier de la vie. Alors que la femme est tournée vers l'intérieur, vers le mûrissement, dans une marche à la perfection, ou du moins à l'achèvement. Le Christ transmettait la parole que la Sainte Vierge gardait dans son cœur. Il reste à voir le rôle social de la famille. Le rôle social de la famille a été défini maintes fois. Le rôle social de la famille est tel, notamment dans l'éducation des enfants, que l'État se doit de conserver la famille. La famille a notamment des droits à choisir son école, a des droits à choisir l'éducation de son enfant, et même si elle est une société imparfaite car elle ne peut tout faire, il reste que l'État est le serviteur de la famille et non pas le contraire. Nous sommes loin de cet idéal. La politique familiale n'existe plus guère que pour faciliter l'avortement et l'union libre plus ou moins pactée. C'est une raison supplémentaire pour se dresser par l'action contre ceux qui en ont la vocation et par les prières pour ceux qui n'en ont pas, pour que la famille redevienne un sanctuaire de la vie de créateur à l'image de Dieu, dont la transmission est autre chose qu'un chatouillement agréable. Cette politique familiale est actuellement complètement négligée. Il faudra bien qu'on y revienne, sous peine d'un évanouissement complet, d'une disparition complète de la société. Mais le pape le rappelle et sent qu'il y ait de plus en plus de voix pour l'écouter. Bon, la prochaine fois, on essaiera de parler du travail.